contre.
Merci. Il me revient donc de clore cette série de réflexions sur le pouvoir, et plus précisément autour de la question provocatrice: quel pouvoir voulons-nous ? Toutefois, je vous signale un petit prolongement de nos réflexions sous la forme d'un débat. On vous a distribué l'affiche qui aura lieu le 15 mai autour du livre de Robert Damien, qui est droit dans notre sujet, qui s'appelle « Éloge de l'autorité ». C'est presque pire que « Quel pouvoir voulons-nous ?». Je vous rappelle les trois interrogations dans lesquelles nous avons déposé notre question principale. Pourquoi y a-t-il du pouvoir et en quoi consiste-t-il ? En quoi cette interrogation regarde-t-elle la psychanalyse ? Et enfin, où en sommes-nous de cette affaire du pouvoir ? Pour mon propre compte, c'est cette dernière interrogation que j'ai privilégiée, non seulement parce qu'elle est celle que je connais le mieux, mais parce qu'elle est celle qui justifie proprement d'affronter la question du pouvoir aujourd'hui. Nous ne nous frottons pas d'ailleurs au problème par hasard. Nous avons des raisons fortes, les uns et les autres, de nous demander ce qui se passe sur le terrain du pouvoir, et des raisons qui sont profondément troublantes. Nous sommes en effet dans le monde occidental, et je crois plus spécialement en Europe, dans une phase tout à fait singulière de l'histoire du pouvoir. Il se passe quelque chose depuis quelques décennies qui n'a pas de précédent. Je résumais le phénomène, vous vous en souvenez peut-être, en disant: nous sommes en train de perdre le pouvoir, au sens où le pouvoir est en train de se perdre, de se décomposer, de se désagréger, de se défaire, sous mille manières. Nous sommes en train, nous dit, nous assure un excellent observateur dont j'ai eu l'occasion de citer le livre, Moses Naïm, nous sommes en train d'assister à la fin du pouvoir. Faut-il pleurer ? Bonne nouvelle, me direz-vous. Bon débarras. Réjouissons-nous qu'il crève. Nous avons eu assez de peine avec cette engeance pour fêter dignement sa disparition. Hélas, la fête est triste. Les congratulations tournent vite à l'angoisse. Nous redoutions le trop de pouvoir du pouvoir. Nous avons de bonnes raisons de commencer à redouter l'impuissance du pouvoir. Nous sommes en train de nous apercevoir que s'il était pénible de subir le pouvoir, et parfois terrible, c'est une épreuve redoutable d'un tout autre genre, et qui n'a jamais été expérimenté, sinon dans des situations catastrophiques tout à fait spéciales qui n'ont rien à voir avec la nôtre, c'est un péril terrible de ne plus pouvoir compter sur le pouvoir. Quelque chose de vital nous échappe quand il se dérobe. Mais quoi ? La crise profonde dans laquelle, qui s'est déclenchée ces dernières années et qui révèle chaque jour de nouvelles dimensions, une crise dans laquelle nous nous enfonçons et dont on ne voit pas le bout. Cette crise pourrait bien être en dernier ressort une crise de pouvoir. Une crise de ce qui se perd quand le pouvoir se perd. Cette crise nous met en demeure de réapprendre le pouvoir, de nous mettre au clair avec le besoin inavoué le plus souvent que nous en avons, de définir les conditions de son bon usage. Et si telle devait être l'issue de cette crise, il y aurait un excellent usage à en faire. Nous allons devoir vouloir le pouvoir et dire le pouvoir que nous voulons. La seule question qui vaille aujourd'hui est de savoir si nous en sommes et si nous en serons capables. C'est en ce sens, je terminais là-dessus lors de ma dernière intervention, c'est en ce sens que nous sommes dans un moment machiavélien, un moment historique où la question ouverte, voici 5 siècles exactement, avec le prince de Machiavel, 1513, acquiert une acuité qu'elle n'avait jamais eue, en même temps qu'une tournure parfaitement inédite. Il nous est demandé de regarder enfin le fait du pouvoir en face. Et cela non pas pour nous y résigner, mais pour le domestiquer. Pour employer la formulation la plus ambitieuse, pour prendre le pouvoir sur le pouvoir. Nous vivons aujourd'hui dans l'illusion de fuir le pouvoir, de le contourner, de nous en passer, de le vider de sa substance. Et nous y parvenons. Et ce qui vient dans ce vide est pire. Il n'y a pas d'autre issue que de le ressaisir et que d'apprendre à s'en servir. Il ne s'agit au fond que d'un développement de plus du problème moderne qui aura été, de part en part, depuis Machiavel, un problème d'acculturation au pouvoir, pourrait-on dire, un problème d'apprivoisement du pouvoir, qui prend aujourd'hui sa forme aiguë. Avant la modernité, avant ce XVIe siècle où nos questions éclosent, celles avec lesquelles nous vivons toujours, la question du pouvoir ne se pose pas. Ou plutôt, elle se présente comme résolue, d'avance. Le pouvoir, il existe, bien sûr, mais ce n'est pas nous. Nous n'y sommes pour rien. Il vient d'au-dessus de nous. Il vient des ancêtres, il vient des dieux, il vient du monde surnaturel. Et ceux, les rois, les grands, qui ont le pouvoir parmi nous, ne sont que des émanations, des représentations affaiblies de ce pouvoir situé infiniment au-dessus d'eux, qui a en plus un avantage technique intéressant, c'est qu'on peut toujours en appeler à ce pouvoir qui est au-dessus d'eux pour s'en débarrasser. En général, en les tuant. Les mœurs étaient brutales à l'époque. La révolution machiavélienne consiste très simplement à révéler ceci, qui est bouleversant pour les hommes de l'époque et en fait le demeure pour nous. Le pouvoir, ça se passe entre nous. Les dieux n'ont rien à faire là-dedans. Il y a des gens qui veulent le pouvoir d'un désir violent, l'un des plus profonds, peut-être le plus vif désir qui ait jamais animé les humains. Et à côté de quoi, non pas le désir sexuel, ne sont pas grand-chose. Ils veulent le pouvoir, ils savent s'en saisir, et c'est là que commence la difficulté, ils ne peuvent le garder qu'en recourant à des moyens que la morale commune réprouve. Et le livre de Machiavel est fait de part en part pour scandaliser au spectacle de ces moyens répertoriés de conserver le pouvoir et de s'en servir d'une manière qui vous mette à l'abri de ceux qui, des autres qui veulent aussi s'en saisir. Dévoilement scandaleux qui va susciter une indignation séculaire. On écrit encore des livres aujourd'hui contre Machiavel. Terrible, pas vrai. Ça se passe pas du tout comme ça. Ne croyez pas ce que raconte cette Librius dévoyée. Mais, en dépit de tout, dévoilement imparable avec lequel il va falloir s'arranger. Il y a quelque chose de potentiellement monstrueux logé au cœur des communautés humaines, qui s'appelle le pouvoir. Comment dompter ce monstre? C'est au fond à ce problème que le plus gros des efforts de la pensée moderne aura été consacré. Je ne vais pas me lancer dans l'inventaire des moyens qui ont été inventés pour ce faire. Le principal qui triomphe aujourd'hui étant l'économie. Le doux commerce, c'est l'argument d'un des plus grands livres politiques jamais écrit, L'Esprit des lois de Montesquieu. Détourner l'attention en offrant une autre issue à cette violente concupiscence humaine, et au lieu de vouloir le pouvoir, les gens voudront le commerce qui leur permet la fortune et la puissance, mais cela en adoucissant les mœurs. Donc, n'affrontons pas de manière frontale ce problème du pouvoir, détournons l'attention du problème qui demeure. Mais néanmoins, on va s'occuper vivement de mettre à la raison ce monstre. Tous nos principes politiques officiels, toujours en vigueur aujourd'hui, qui s'élaborent depuis le XVIIe siècle, et qui se sont peu à peu installés dans nos mœurs, qui sont devenus le cadre familier dans lequel nous évoluons, tous nos principes politiques sont une promesse de neutralisation du monstre. Nos droits de l'homme, nos constitutions, nos systèmes représentatifs. Voilà les trois principaux outils destinés à faire entrer le monstre dans une cage où on le tient à peu près en lisière. Au départ, la résignation devant le constat. En effet, il faut bien l'admettre, ne nous voilons plus la face, le pouvoir, c'est nous. Ce ne sont pas d'autres que nous. C'est nous. Eh bien, faisons en sorte que ce pouvoir devienne pour de bon le nôtre. Ce n'est pas si difficile. Nous allons désigner ces titulaires en donnant chacun notre avis, en choisissant entre des candidats par des procédures électorales. Nous allons enfermer l'action de ces représentants que nous avons élus dans des règles institutionnelles très précises, qui codifient d'avance ce qui leur est permis, ce qui ne leur est pas possible. Et puis, de toute façon, nous allons nous épargner le pire, ils ne vont commander que selon des lois générales. Nous ne sommes plus dans l'univers du pouvoir entendu comme le commandement d'un sur les autres, mais dans un pouvoir de règles définies par des parlements qui contraignent tout le monde, y compris ceux qui les ont votés, d'une manière anonyme, qui ne s'applique à personne en particulier. Et de toute façon, complément ultime du verrouillage, du dispositif de verrouillage, ces lois ne vont s'appliquer qu'à une partie limitée de la vie collective, qui nous laissera libres de mener nos existences comme nous l'entendons et de passer les accords que nous voulons avec nos pareils pour le reste. Voilà la cage libérale dans laquelle nous avons fini laborieusement par parvenir à enfermer le monstre. Nous le tenons, mais manifestement, cela ne suffit pas. Même en cage, le monstre continue de faire peur et de susciter le scandale. Parce que même à l'intérieur de cette cage, il est rusé, séducteur, et il arrive à trouver des moyens de rayonner bien au-delà des limites où nous le tenons. D'où ce dessin qui va être la grande affaire des deux derniers siècles. Le dessin d'en finir avec lui. D'en finir pour de bon, de le liquider purement et simplement. Abolir le pouvoir. Voilà le seul bon programme. Ce sera le grand dessein du mouvement révolutionnaire qui se greffe autour des luttes ouvrières à partir du XIXe siècle. Je ne reviens pas sur les avatars de ce projet communiste. On sait comment, sous couvert de s'approprier tout le pouvoir en vue de le détruire, Lénine, l'État et la Révolution, lecture obligatoire sur ce sujet, nous savons comment il a déchaîné une folie destructrice du pouvoir, retournée contre le peuple qui était censé ne plus faire qu'un avec lui. Nous ne le remarquons pas assez, bien que tous les signes en soient éclatants, nous sommes sortis de la zone d'attraction de cette ambition folle. Elle ne parle plus aux masses et ne séduit plus que quelques dandys d'extrême gauche qui d'ailleurs n'y croient pas vraiment, mais qui se singularisent à peu de frais en continuant de faire semblant d'entretenir la flamme. Nous nous piquons volontiers d'être délivré de l'idéologie. La valeur première du discours politique d'aujourd'hui, qui peut l'ignorer, c'est le pragmatisme. Nous sommes pragmatiques. Nous nous arrangeons sans doctrine et sans prétention aussi démesurée. En réalité, nous sommes sous le coup d'une illusion idéologique, symétrique et inverse de la précédente, mais non moins puissante, si ce n'est davantage. La différence étant d'ailleurs que cette idéologie, cette illusion idéologique d'aujourd'hui, a pour elle de séduire prioritairement les élites, quand la précédente parlait plutôt de préférence aux masses. Autorité supplémentaire, difficile à récuser. Nous sommes passés, pardonnez-moi la facilité de cette image, mais je la trouve parlante, nous sommes passés de la folie meurtrière à la folie douce. Nous pouvons d'ailleurs nous en féliciter. Préférons les loups aux meurtriers, certes. Il ne s'agit plus aujourd'hui de s'approprier tout le pouvoir. Il s'agit de s'en dégager, de vivre en dehors de lui, de le réduire à rien, de faire idéalement comme s'il n'existait pas, ou comme s'il était ramené à une surface minimale. Nous avons connu la démence furieuse du pouvoir total, dont la démesure était de vouloir fondre les individus dans leur société, et ces individus ne demandaient qu'à se fondre dans le collectif qu'on leur proposait. Nous voici plongés dans l'idiotie béate de l'impouvoir radical, dont l'ambition aveugle est cette fois de faire disparaître la société derrière les individus et leurs droits. Mais un monde où le pouvoir se perd comme un ouen se perd dans le désert, de la sorte, libère d'autres forces qui ne sont pas des pouvoirs, mais qui n'ont pour autant rien de sympathique. Et qui nous oblige à mesurer cruellement notre impuissance au milieu de notre liberté. Car en effet, nous sommes libres. Nous sommes libres comme nous ne l'avons jamais été. Mais, contrepartie à laquelle nous ne nous attendions pas, tout à fait, nous ne pouvons rien. Absolument rien à ce qui se passe autour de nous. Voilà l'enjeu grossièrement présenté à partir duquel nous allons devoir réapprendre le pouvoir. En fait, nous allons devoir apprendre à nous servir du pouvoir, ce que nous n'avons jamais été réellement en position de faire, tellement sa magie offusquait le regard que nous pouvions porter sur sa réalité. Nous nous en servions sans nous en rendre compte ou en travestissant la réalité que nous manions. Il va falloir apprendre à utiliser le pouvoir en connaissance de cause. en le regardant en face pour ce qu'il est. Ce dont, jusqu'à présent, l'humanité, dans son très long parcours, a été incapable. Mais ce que l'humanité, vous, psychanalyste, êtes placé pour le savoir, a de plus difficile à regarder en face, c'est elle-même. Pourquoi y a-t-il du pouvoir? Voilà la question radicale qu'il nous faut affronter. Et nous pouvons, je crois, lui apporter une réponse claire, qui nous ouvre sur une série de difficultés très grandes, mais dont la première proposition, du moins, est simple. Il y a du pouvoir parce que les communautés humaines, j'emploie à dessein l'expression la plus vague, la plus générale, parce que les communautés humaines ont du pouvoir sur elles-mêmes. C'est leur propriété irréductiblement originale. Nous ne vivons pas dans des ruches, dans des fourmilières ou dans des bandes, parce que les ensembles humains se définissent par le pouvoir de se définir et de se gouverner. Les collectifs humains sont politiques en ce sens. Les communautés humaines existent en tant que communautés politiques. Elles sont agencées, et tout le problème est cet agencement, de manière à se donner une idée d'elles-mêmes au nom de laquelle elles se gouvernent au travers d'un pouvoir. Là où l'anomalie commence, c'est que ce pouvoir n'existe que sous une forme séparée. Le pouvoir n'est pas entre les membres de la communauté comme leur propriété commune. Il se présente comme extérieur à eux, sous la forme d'un pôle ou d'une instance distincte de commandement, de gouvernement, distincte et ou disjointe d'eux. Le pouvoir s'exprime, en d'autres termes, dans une division de la communauté d'avec ce qui la dirige. Voilà un trait qui devrait tout de suite sonner de manière familière aux oreilles des psychanalystes. Car ils ont quotidiennement affaire à une autre version de la même chose. De la même anomalie, sous l'aspect de sujets divisés, qui ne sont sujets qu'en fonction de cette division. Si nous possédons à quelques degrés, un degré limité mais effectuant, la capacité douloureuse de nous conduire par devers nous-mêmes, c'est parce que nous sommes séparés d'avec nous-mêmes. N'aurions-nous pas cette scission constituante que nous ne serions des animaux comme les autres? Nous sommes là dans les mêmes parages de l'anomalie humaine. La politique et l'inconscient, le pouvoir et l'inconscient sont deux faces de ce prix moyennant lesquels l'humanité s'est extraite mystérieusement de l'animalité. Pour revenir aux politiques et au pouvoir, cette séparation est telle est tellement surprenante, incompréhensible, qu'elle a été lue, archimillénairement, comme une étrangeté de nature, comme l'émanation d'une altérité surnaturelle. Le pouvoir ne peut venir que d'ailleurs. Il ne peut pas surgir de l'intérieur de nous et de nos communautés. Le pouvoir est le signe de l'autre. Chose très remarquable, bien après qu'on en soit venu à penser le pouvoir comme une affaire purement humaine, en termes profanes, laïques, comme vous voudrez. Pendant très longtemps, on a pu concevoir l'origine du pouvoir que comme le résultat d'une conquête. S'il y a du pouvoir, c'est qu'un peuple dominant a asservi un peuple dominé. Vous avez encore l'écho de cette légende chez un auteur qui se piquait fort de lucidité, comme Nietzsche. C'est encore ce qu'il met en avant pour justifier la fonction de commandement et la supériorité de ceux qui doivent, qui sont appelés à commander. Seule la venue d'une communauté étrangère écrasant un monde d'esclaves pouvait correspondre à cette imposition d'une règle par le dehors. Nous sommes autour de 1900 encore, et un esprit aussi aigu que Nietzsche peut encore vivre dans cette fiction qui montre à quel point il est difficile d'une certaine manière de penser le pouvoir, cette extériorité interne au travers de laquelle une communauté politique s'appréhende. Eh bien, pourtant, non. La conquête n'a que faire là-dedans, sinon anecdotiquement, de manière contingente. Ça existe, bien entendu, mais c'est pas ça l'origine du pouvoir. L'extériorité qui marque l'instance du pouvoir, elle est endogène. Elle naît du dedans de ce qu'est une communauté politique. Et c'est ce qu'il est si difficile de penser. On voit bien, d'ailleurs, je n'ai pas le temps d'entrer dans cet historique, mais il est révélateur. Je prenais l'exemple de Nietzsche, en tant que démystificateur, on voit comment les démystificateurs peuvent aisément s'auto-mystifier dans les difficultés réelles qu'ils sont confrontés. Mais prenez un auteur comme Marx, pour lequel le pouvoir est un impensable. Il ne peut résulter que d'un maléfice temporaire associé à une structure historique destinée à se résorber. Il est le produit d'une domination économique, c'est le maléfice de la propriété destiné à être dépassé. Il ne peut durer, il ne peut être constitutif, il n'a aucune raison d'être tenant à l'essence de l'humanité. Eh bien, là au moins, petit à petit, nous avons appris quelque chose, à nos dépens, très durement. Le partage du pouvoir est constitutif. Il est structurel. Il résiste à tout et à toutes les tentatives pour rationaliser ce partage, comme dans nos régimes représentatifs. On a beau faire, il s'agit d'autre chose que de désigner des représentants qui nous ressembleraient, qui seraient des hommes comme nous, et quand ils sont comme nous, c'est tragique, ils sont totalement inaptes à exercer le pouvoir. Et on s'en aperçoit tout de suite. Mais en fait, même dans ce cas-là, ils nous échappent dans une certaine mesure. D'où, je crois, cette pulsion venue des profondeurs de nos sociétés qui, depuis les années 1970, nous entraîne dans une fuite en avant éperdue pour faire comme si le pouvoir n'existait pas. On le laisse à sa place, il ne nous dérange pas. Mais nous organisons nos sociétés de telle manière qu'elles échappent pour l'essentiel à la prise du pouvoir. Nous nous sommes voués au démon de l'économie de cette façon pour échapper au diable du pouvoir. C'est une façon de faire son salut dont il faut espérer qu'elle n'est pas le dernier mot du parcours. C'est une impasse. Il nous faut apprendre, à l'inverse, à reconnaître ce pouvoir extérieur comme le nôtre. Comprendre les raisons de ce qui le met au dehors de nous et faire en sorte qu'il devienne le plus possible, en effet, le nôtre. Mais nous ne pourrons le faire devenir le nôtre que si nous reconnaissons au préalable ce qui l'extrait à notre prise immédiate. Cette extériorité est ce qui permet à la communauté politique de se gouverner et de donner à ses membres le sens de ce qu'ils appartiennent à une communauté gouvernable. Et en réalité, c'est le plus important de ce que nous demandons au gouvernement. Données capitales sur laquelle je vais revenir. Ce que la masse des populations demandent aux gouvernants, c'est pas de bien gouverner, c'est tout simplement de leur procurer le sens minimal de ce qu'ils appartiennent à un corps politique gouvernable. Après, on verra, c'est par surcroît, comme on dit, la guérison chez les psychanalystes. La demande politique qui est celle des élites militantes qui veulent la démocratie participative, par exemple, est bien loin de la demande plus humble des peuples, qui est tout simplement de faire en sorte d'avoir partie à une communauté sur laquelle une maîtrise politique est imaginable. C'est justement là où le bât blesse aujourd'hui et où l'angoisse collective se déclare face au sentiment que cette fois, ça leur échappe. Et nous, là-dedans, le pas idéal supplémentaire que nous avons à faire dans l'histoire de notre démocratie, qui est tout à fait ouverte, étant de faire en sorte que ces peuples aient effectivement part au gouvernement. Et nous en sommes très loin. Ne serait-ce que pour l'excellente raison, encore une fois, qu'ils ne le demandent pas. Contrairement à ce que se racontent les militants de divers bords qui veulent absolument les engager dans cette direction. Cette extériorité, pourquoi ? Elle exprime le fait primordial que les communautés politiques existent comme une réalité distincte en tant que tout. Qu'elles constituent des ensembles cohérents sur lesquels il y a une prise possible en tant que telle, à part des liens directs de personne à personne. C'est le mystère de la vie en société. Que saisissons-nous dans la vie en société ? nous saisissons des relations sociales, des rapports sociaux, comme dit la sociologie, que nous pouvons décrire à l'infini. En fait, ce n'est qu'un plan de l'existence en société, car il y a un autre plan par lequel, sur lequel, les communautés humaines existent en tant que totalité distincte des membres qui les composent, bien que faite uniquement de ces membres. C'est la nature mystique des entités politiques. Et le pouvoir est précisément dans son extériorité la représentation de cette dimension seconde qui fait qu'une communauté existe en quelque manière à part de ses membres qui la composent et qui sont sa seule réalité discernable. En ce sens-là, on comprend bien que le pouvoir est effectivement associé d'origine à l'invisible, à quelque chose de magique, à quelque chose de surnaturel qui ne se livre pas à l'appréhension immédiate des sens. Et l'on comprend que le sentiment le plus profond des membres des sociétés, et cela attesté d'une très longue durée, mais toujours très vivant aujourd'hui, c'est le sentiment que l'existence de leur société est un incompréhensible sur lequel ils n'ont rien à dire, de telle sorte que la prudence leur commande de se réfugier dans leur petit entre-soi, où là, au moins, ils ont la maîtrise des paramètres de leur vie. Nous vivons dans un univers de relations inter-individuelles, comme celles que nous avons en ce moment, mais il y a autre chose et plus dans l'être en société qui fait exister l'être ensemble comme autre chose, comme un englobant dans lequel nous sommes compris, auquel nous appartenons. Mot déterminant pour ce que nous essayons de saisir. C'est à cette dimension-là d'appartenance que le pouvoir est relatif et c'est ce qui fait son étrangeté au regard de notre monde familier, son extériorité. C'est dans cette lumière qu'il faut comprendre les trois traits qui le constituent. Je me suis efforcé de les cerner, les spécifier la dernière fois, je vous les rappelle dans cette perspective. Premier trait caractéristique, l'identification à une personne en particulier. Le pouvoir tend à se ramener à un, à se concentrer en un lieu personnel. Même dans un système de gouvernement comme les nôtres, collégial et complexe. La tentation, depuis toujours, depuis qu'il y a des textes politiques qui disent la même chose, la tentation c'est de ramener ce trait à une exigence fonctionnelle. L'efficacité du commandement. Pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un qui commande. C'est un peu court. En fait, il y va d'abord de se faire remarquable qu'il ne s'agit pas simplement de commander. Et il y a des pouvoirs impuissants, institutionnalisés comme impuissants. Le système impérial japonais distinguait un empereur qui n'avait aucun pouvoir et un vrai pouvoir qui avait les manettes réelles de l'exercice des fonctions. Ça n'empêchait pas la figure de l'empereur de jouer un rôle clé, lequel ? Celle d'être d'abord connu de tous. Il y en a un qui est connu de tous, qui existe pour tous, qui est en un sens familier de tous. D'où l'importance de cette image paternelle qui a si longtemps accompagné la symbolique du pouvoir. Le roi est le père de ses sujets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est proche d'eux, qu'il est, qu'il appartient, bien qu'ils ne l'ont jamais vu et qu'il n'ait même pas l'idée de ses traits, quelqu'un qui vit dans le commerce familier de leur existence. Un pour tous, en lien direct avec chacun. Un auquel se ramène, en quelque manière, le tout de la communauté politique qui en concentre le principe en sa personne. Un incarnateur, un personnificateur. Toute la symbolique du pouvoir, que nous connaissons assez bien maintenant, tourne autour de ces dimensions. Mais bien sûr, c'est là qu'il faut aller chercher le ressort de la dimension psychique du rapport au pouvoir qui se joue effectivement en chacun. Être membre d'une société, c'est avoir rapport à un pouvoir singularisé qui constitue en personne celui au travers duquel je puis me rapporter à la communauté à laquelle j'appartiens. C'est une dimension parfaitement énigmatique, ou qui apparaît ici, mais ô combien importante, celle de la coparticipation des êtres imaginaires, symboliques, réels, dans une communauté politique digne de ce nom. Deuxième caractéristique, le pouvoir est l'instance qui a spécifiquement affaire au tout de la collectivité. Il est ce qui rend possible ce tout comme tout. C'est pourquoi il est à part. Tous les autres n'ont qu'une vue partielle. La notion de gouvernement limité, qui est la philosophie de nos régimes, est en ce sens tout à fait trompeuse. Bien sûr que le gouvernement ne s'occupe pas de tout, qu'il laisse une foule de choses en dehors de son emprise. Mais il est néanmoins, y compris dans nos régimes ô combien libéraux, et c'est pour ça que, en dépit des espoirs de le limiter, en fait, il grandit toujours. Il est ce qui permet au tout de vivre de manière ordonnée dans son tout. Et puis, un tout à l'intérieur duquel, ensuite, dans un second temps, les acteurs divers que nous sommes poursuivent chacun de leur côté les fins qu'ils veulent et passent les accords qui les intéressent. En gros, pour simplifier à outrance, on pourrait dire, le pouvoir s'occupe du contenant, des acteurs sociaux, du contenu de la vie collective. Mais le pouvoir est là pour témoigner qu'une action est possible sur le contenant, sur ce qui nous tient tous ensemble, qui est à notre portée de définition, et de modification et de transformation. Troisième trait, tout aussi singulier, quand on y réfléchit, le pouvoir s'exerce toujours au nom d'autre chose que lui. Un pouvoir qui s'exerce en son propre nom n'est pas un pouvoir, il est une puissance. Un conquérant qui vous envahit et qui impose sa loi par la force est une puissance. Pour devenir un pouvoir, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, il fasse appel à cette légitimité qui lui vient d'incarner autre chose que lui, un principe qui lui est supérieur. Principe le plus répandu historiquement ayant été effectivement celui d'un dieu quelconque. La tradition, l'onction divine, et pour nous, nous sommes exactement dans le même cas de ce point de vue-là. Si radicale qu'ait été la révolution moderne du pouvoir, nous sommes dans la continuité de l'expérience de toujours. Le pouvoir s'exerce non pas en son nom propre, mais au nom de la souveraineté du peuple qu'il est chargé de mettre en œuvre. Mais donc d'un principe qui lui est radicalement extérieur et qui peut d'ailleurs, c'est une propriété intéressante, lui être en permanence opposée. Qu'as-tu fait de notre souveraineté ? C'est le trait essentiel, bien sûr, car c'est par là que nous le tenons en dernier ressort. Si le pouvoir ne s'autorisait que de lui-même, pour reprendre une formule bien connue chez les disciples de Lacan, nous n'aurions aucune prise sur lui. Nous avons une prise sur lui parce qu'il se réclame d'autre chose que lui. Et ce quelque chose d'autre, dans nos sociétés, c'est nous. Évidemment, c'est tout de même une corde de rappel intéressante. C'est par ce principe qui le met d'au-dessus de lui, dont il se donne uniquement comme le répercuteur, le médiateur, le représentant, qu'il demeure en relation avec la communauté politique et ne se contente pas de lui imposer par force sa règle. Il vit de cette relation, car il faut ajouter une propriété intéressante à ce trait. Aucun pouvoir n'est légitime une fois pour toutes. Un pouvoir est dans une contrainte constante de légitimation aux yeux des gens sur lesquels il s'exerce. Et précisément, le grand scandale machiavélien, quand vous relisez Le Prince, c'est l'étalage de ces moyens par lesquels un prince se relégitime constamment aux yeux de ses sujets, qui ne sont pas en effet tout à fait conformes à ce que prêchait à l'époque l'Église catholique, apostolique et romaine. Le paradoxe constitutif de l'existence politique, c'est que nous avons besoin de cette dépossession qui extranéise le pouvoir par rapport à la communauté, qui extranéise la capacité de se gouverner par rapport à la vie de la collectivité, pour que nous puissions, sur la base de cette dépossession, nous réapproprier le principe de ce gouvernement. Il ne s'agit surtout pas d'abolir cette extranéité, qui est le détour nécessaire. Il s'agit d'aménager cette extranéité de manière à ce qu'elle permette une réappropriation aussi poussée que possible des raisons à l'œuvre dans le gouvernement. Bref, et je crois que c'est là notre programme, il se résume assez simplement dans une phrase, il s'agit de faire de cette séparation du pouvoir, qui est le lot des communautés humaines, une médiation de la communauté politique avec elle-même. Et là, nous aurons, en effet, si nous sommes capables d'aménager des pouvoirs de cette façon, franchit une étape déterminante dans la maturation du rapport de l'humanité à ce pouvoir qui la martyrise depuis toujours, dont elle n'a jamais su s'arranger. La solution que nous sommes en train d'essayer de trouver au travers de notre embardée libéralo-économique étant la pire de toutes. Nous avons, à partir de là, l'explication, je crois, d'une autre énigme politique qui a été nommée peu de temps après que Machiavel ait appelé l'attention sur l'énigme du pouvoir. Je veux parler de l'énigme de la servitude volontaire que la Boétie désigne dans le discours du même nom, en 1548, 35 ans après Machiavel. toutes les questions ont été posées très tôt, dès l'instant où le pouvoir est redescendu parmi nous et il nous a été obligé de penser que c'était nous qui étions impliqués dans ce pouvoir. Cette énigme cesse d'en être une, me semble-t-il, dès lors que l'on considère le caractère indirect du gouvernement d'une communauté politique par elle-même et la double articulation qui y préside, pour reprendre une notion clé de la linguistique qui trouve une application particulièrement topique ici. Nous acceptons d'être gouvernés. C'est notre cas à tous. Les vrais anarchistes sont très rares. Je n'en ai pas rencontré, j'en ai fréquenté beaucoup, mais de vrai, je n'en ai pas vu vraiment. Nous acceptons tous d'être gouvernés. Voilà l'énigme. Nous acceptons même éventuellement d'être dominés. Parce que nous tenons par-dessus tout et primordialement à l'assurance, à la sécurité fondamentale que notre communauté reste gouvernable ou soit susceptible d'être maîtrisée. Peu importe que moi je subisse, dès lors que j'ai l'assurance de vivre dans un espace qui est tenable dans sa cohérence. Après, ce que je comprends, ce que devine les raisons de ce gouvernement est somme toute secondaire. C'est sur fond de cette gouvernabilité des communautés humaines, la chose la moins évidente qui soit, que prend sens la perspective de s'intéresser à ce que sont les termes du gouvernement. Plus, ce qui est un paradoxe qui a été maintes fois relevé par les historiens et les auteurs politiques, plus les conditions sont pires et plus les gens se raccrochent à ce besoin d'appartenir à une communauté gouvernable. C'est pas le pire, on le sait bien, qui déclenche les révolutions. C'est le meilleur. Quand, justement, cette sécurité est procurée, alors là, on peut se poser la question de qui gouverne, comment et pourquoi. Autrement, on veut simplement être gouverné. On veut qu'il y ait gouvernement possible. Et on s'arrête là. Je crois que l'actualité politique contemporaine nous en donne des exemples. Regardez ce qui est en train de se passer dans le monde arabe. Nous avons là des illustrations très parlantes de la chose. Le signe de cette séparation du pouvoir réside dans un simple fait auquel nous ne pensons pas assez et que nos systèmes représentatifs mettent pourtant naturellement en lumière tout en l'escamotant. Ce système suppose des candidats à la représentation et au pouvoir. Mais on nous dit, je suis comme vous, donc votez pour moi. Ça fout. Quelques belles occasions. C'est évidemment le contraire. Les gens qui sont candidats, en dehors de quelques outsiders qui sont là pour remplir les blancs dans les listes, constituent une population très particulière, sur laquelle, à ma connaissance, on n'a jamais sérieusement réfléchi. Quel est le profil psychopolitique d'un candidat au pouvoir dans nos sociétés? Ne parlons pas des sociétés du passé, où la documentation ne fera jamais défaut pour répondre à cette question, mais dans les nôtres, nous les connaissons, nous les avons sous le nez, nous savons tout sur eux. Nous avons leur profil Facebook et combien d'autres informations. Notez bien, et c'est une des failles du régime représentatif en même temps qu'une de ses forces, notez bien que la grande majorité des citoyens sont entièrement étrangers à ce désir de candidature. C'est aussi quelque chose à quoi nous ne pensons pas assez. Alors, il y a une explication toute faite. Ils songent à leur vie privée, à leur existence peinarde dans leur coin. Ils n'ont pas envie d'aller se mettre sur la place publique avec tous les risques et les difficultés que ça comporte. C'est une part de vérité, mais ça va bien plus profond. Ils ne voudraient à aucun prix de cette position. Et puis, il y a ces quelques pourcents, à mon avis, guère plus de 5% dans une population donnée. Mais c'est à la louche. On peut discuter du pourcentage. Quelques pourcents qui sont candidats à l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce qui fait qu'un être est candidat à l'exercice du pouvoir ? Ça ne lui vient pas de la dynastie dans laquelle il appartient, du lignage dont il est l'héritier. Non, ça lui vient du dedans. Ces gens de pouvoir sur lesquels nous ne réfléchissons jamais sont à la fois le problème et la solution. C'est une espèce à part, même quand ils n'en ont pas l'air. C'est une espèce à part que de vouloir exercer ce rôle qui ne consiste pas simplement à commander, c'est la surface des choses, et en plus, en fait, le pouvoir d'aujourd'hui ne commande pas grand-chose. Mais bien plus profondément, candidat à l'exercice d'une fonction qui consiste à incarner une communauté et à régir son existence, ou à figurer ce qui peut régir cette existence. Le pouvoir est une vocation, et en dépit de toutes les belles nostalgies que nous pouvons entretenir contre la politique professionnelle, qui est évidemment un démenti criant à ce que voudrait une démocratie, la politique est une vocation et un métier d'un genre très spécial. Un métier difficile entre tous, impossible. On l'a dit, nous en avons eu l'occasion d'en parler par le passé. Eh bien, de ces gens de pouvoir, nous avons besoin. Parmi cette population, il y a des gens qui sont animés par des motivations extrêmement différentes. Il y a des motivations ignobles et il y a des motivations nobles. Les deux existent et les deux vont ensemble, quelquefois chez les mêmes personnes, ce qui est embarrassant. Parce qu'effectivement, cette espèce de retournement qu'implique le pouvoir par rapport à la collectivité, qui vous met à part d'elle, implique de recourir à des procédés qui ne sont pas toujours reluisants. C'est ainsi. Le pouvoir est mensonge. C'est son moyen principal. Il est éventuellement corruption. Et il n'y a pas moyen de faire autrement. Je vous renvoie à un film admirable qui le démontre avec un éclat sans pareil, un des plus beaux films politiques qui m'a été donné de voir, le Lincoln de Spielberg. Eh bien oui, pour faire passer l'abolition de l'esclavage, Lincoln a utilisé le mensonge, la corruption et quelques autres moyens guère plus relevés. La fin justifie les moyens. Jusqu'où? Comment? Voilà la question avec laquelle il faut accepter de vivre si l'on veut se mêler d'exercer le métier politique. le pouvoir ne tue plus, il n'a plus besoin d'utiliser des moyens meurtriers. Nous avons fait des progrès. Mais il utilise, c'est son élément naturel, la manipulation. Il est manipulation. Il ne peut pas être autre chose. Dès qu'on y réfléchit sur des cas un peu précis, donc, par nature, le pouvoir appelle à son exercice des gens qui voient essentiellement les moyens qui satisfont des pulsions. Nous savons bien qu'elles existent profondément. Tout le problème, c'est de trouver les gens qui sont prêts à utiliser ces moyens, mais qui ont une idée des fins que ces moyens sont destinés à servir. Lincoln. Il y a eu d'autres présidents dans l'histoire des États-Unis, y compris récentes, qui visiblement recouraient à des moyens similaires, mais sans aucune idée des fins, à quoi ça, sinon les leurs, à quoi ça pouvait servir. Eh bien, cela fait partie de la fin du pouvoir dont nous parlions au début. Il est visible que l'espèce de ces gens de pouvoir est en voie de disparition. Pour des raisons qui vont peut-être avoir avec l'extinction générale des espèces, mais qui ne sont pas évidentes. Ou en tout cas, elle est en voie de marginalisation. Nous voyons apparaître une nouvelle catégorie de gens de pouvoir. C'est des gens qui savent accéder au pouvoir dans le cadre d'un système représentatif. Ce sont des spécialistes des élections. Ils savent gagner des élections. Ils sont remarquables dans ce rôle. Nous avons eu un exemple extraordinaire. Je ne parlerai pas de politique locale pour ne pas avoir l'air partisan. Mais nous avons eu un exemple extraordinaire d'un des hommes politiques qui, d'apparence, semblait le plus extraordinairement doué avec le président actuel des États-Unis. Eh bien, ce n'est qu'un spécialiste des élections, spécialité pour laquelle il n'a pas son pareil. Mais il ne sait rien faire d'autre, le reste ne l'intéresse pas, ce qui est encore plus déconcertant. Nous avons des gens qui savent arriver au pouvoir, mais des gens qui ne savent pas ce que gouverner veut dire et ce que cela demande. Cela ne leur dit rien. Ils s'étonnent qu'on leur pose la question. Ils ont une vraie incompréhension. Elle leur est pourtant assez généralement renvoyée. De quoi vous parlez ? Je veux dire, mais comment je n'ai pas de cap ? Mais si j'en ai un, j'ai des élections dans 3 ans. Ça ne vous paraît pas un cap suffisant ? Si j'évoquais ce problème, c'est afin de conclure sur ce qui me paraît être l'intention principale de ce propos. L'objet d'une réflexion sur le pouvoir, aujourd'hui, dans ce contexte très spécial où nous sommes, est de mettre l'ensemble de ces données sur la table. De cesser de vivre sous le signe du discours sur ce que devrait être le pouvoir. Eh bien, parlons de ce qu'il est et de ce que sont ces exécutants sur lesquels, à mon sens, la psychanalyse a énormément à dire. Quid de cette vocation ? Quid de ce métier très particulier qui consiste à gouverner ? Et s'il s'agit de mettre ces données sur la table, c'est pas pour les condamner, c'est au contraire pour les comprendre, pour manifester en un sens plus de tolérance à leur égard, moins d'illusions sur les vertus absurdes que nous nous croyons obligés de leur prêter, mais aussi, de l'autre côté, pour mettre plus de rigueur dans la sélection de ces gens de pouvoir qui nous sont indispensables. C'est ici que le réalisme freudien, appelons-le comme ça, pourrait très utilement venir au secours du réalisme machiavélien. Au fond, les deux sont faits pour se rejoindre. Et je crois que si le pouvoir a un avenir, c'est quelque part dans cette zone que nous pourrons contribuer à le faire advenir. Merci.
Merci beaucoup, Marcel Gaucher. Moi, je suis toujours admiratif de la façon dont, par les chemins qui vous sont propres et avec la méthode qui vous appartient, vous en venez à une description du tableau, je dirais, qui ne fait que mieux éclairer pour d'autres, comme moi, par exemple, je dirais, les facteurs et l'économie qui est en cause. Et donc, je suis à chaque fois très, très touché par ce que vous voulez bien nous apporter. Vous êtes servi, par exemple, du terme de extériorité interne, ou encore de celui d'étrangeté concernant la position du pouvoir, son extériorité, etc. Tout un ensemble, je dirais, de dispositions qui sont très éloquentes, sont très importantes et sont très riches. Je crois que dans ce que nous faisons, et malgré la modestie de notre approche, il y a un enjeu qui, je dirais, dont nous ne faisons qu'hériter sans l'avoir aucunement résolu. Cet enjeu étant celui de savoir s'il serait enfin possible que nous ayons avec le pouvoir dans nos sociétés une relation apaisée. À partir de ce fait qui est tout de même surprenant, c'est qu'on ne saurait difficilement relever les traits d'identification de ce qui serait un bon pouvoir. En tout cas, nous n'en avons pas l'expérience. Dans l'histoire, pas plus que dans notre propre vécu. Et cet effet remarquable que les sociétés humaines semblent ainsi, jusqu'à ce jour, vouées, je dirais, à une souffrance manifeste et qui coûte cher à beaucoup de la malfaçon de notre relation au pouvoir. Je me risquais à un propos très rapide et hasardeux au moment comme ça où nous allons terminer cette année en cours, je me risquerais à dire ceci, pour répondre à votre question. C'est que s'il faut quelques talents, et c'est indiscutable, il faut un talent très spécial pour venir occuper cette place du pouvoir. Je pense qu'il faut avoir suffisamment froid aux yeux et suffisamment de perversité pour accepter de se mettre à la place où ce sont les mensonges, l'utopie, les faux espoirs, les promesses qui indiscutablement nous tiennent et organisent pour l'essentiel l'existence de chacun. Et que si l'on reconnaît, je dirais, un pouvoir efficace, on célèbre par exemple, pardonnez-moi si je prends des exemples à portée de main, mais on célèbre, n'est-ce pas, le sphinx que fut le président Mitterrand. On ne s'attache pas à son bilan. s'attache au fait que c'était manifestement, je dirais, grâce à ce talent évident et une intelligence évidente de la duplicité et des mots qu'il faut dire pour qu'on puisse être suivi. Je pourrais évoquer d'autres figures, le président Kennedy par exemple, qui a laissé dans l'histoire l'image d'un homme éminemment sympathique et remarquable, qui lui d'ailleurs a un certain bilan, mais qui par ailleurs, dans les faits, savait parfaitement, je dirais, les procédures, les procédés que je viens d'évoquer. Je veux dire par là que c'est se mettre au cœur, à mon avis, d'une vérité subjective, qu'il est difficile pour chacun d'entre nous d'accepter et de traiter. Mais en revanche, je dirais, pour mener, il me semble qu'il faut soi-même avoir franchi quelques étapes pour accepter que l'ordre des choses, hélas, puisse être, jusqu'à ce jour, de ce type. Mais je dis bien, ce que je raconte est tellement rapide. Vous voyez, on sonne d'ailleurs tout de suite pour me rappeler à la raison. Donc, si j'ajoutais encore un mot, si vous le permettez, je crois que nous devons à la religion notre introduction au rapport moderne à la politique et au pouvoir, en ce sens que la religion a magnifiquement opéré cette introjection de la dimension du pouvoir, l'intériorisation de ce qui était externe. Et ne serait-ce d'ailleurs qu'avec, très banalement, les commandements. À partir du moment où je suis amené à les accepter, du même coup, en quelque sorte, je mets en place intérieurement cette autorité et qui, je dirais, n'a plus, est ensuite, je dirais, offerte à ce qui, dans l'extériorité, viendra prendre sa place dans le champ politique. Donc, je dirais que nous étions dans ce type d'intériorisation de la relation au pouvoir, c'est ce qui fait notre servitude volontaire, assurément, c'est-à-dire que nous l'aimons ce pouvoir qui ainsi nous commande et qui a évidemment un lien que je ne vais sûrement pas évoquer maintenant, mais un lien avec ce qui est également, ne serait-ce qu'avec les commandements moraux, avec la sexualité. Et il semblerait, pour dire un mot sur ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la disparition du pouvoir, il semblerait que le phénomène nouveau serait que cette intériorisation, peut-être à cause de la sécularisation dans laquelle nous sommes engagés, que cette intériorisation, et je pense qu'on le voit nettement avec les jeunes générations, n'opère plus et que du même coup il y a effectivement cette liberté magique, formidable, remarquable, qui a aussi bien évidemment de bons usages que d'autres moins bons, mais à laquelle nous assistons et qui les rend réfractaires à l'homme politique moderne, qui dès lors se demande, mais alors, qu'est-ce que je vais bien... Comment vais-je pouvoir les toucher? Ça, là, je crois que c'est un vrai problème. Et ce que l'on pourrait également, en déduction de ce que vous nous apportez, appeler ce qui est aujourd'hui la déshérence du discours politique. Si l'un d'entre nous a entendu un discours politique, il a de la chance, je veux dire, on le cherche, sauf à reprendre, à faire radio-nostalgie, c'est-à-dire à reprendre le vieil, les antiennes, etc. Carence du discours politique dans la mesure où, si l'on ne sait plus ce qui est susceptible de faire autorité chez ceux à qui l'on s'adresse, alors à ce moment-là, il y a toute une intelligence qui tombe, hélas, ou qui ne sait plus comment se manifester. Moi, je serais tenté, évidemment, d'inscrire ce phénomène, c'est-à-dire cette fin de l'intériorisation du pouvoir, de l'inscrire comme venant marquer notre difficulté politique. Mais bien entendu, tout ceci est à voir. Ou même Marcel Gaucher, parce que...
Je ne suis pas si sûr que ça de ce qu'il y ait fin de l'intériorisation du pouvoir, comme vous le dites. Ce qui me semble en effet acquis, c'est qu'il y a une fin consciente de cette intériorisation et de que se manifester dans la dévotion, le respect spontané, l'inclination devant les pouvoirs de la grande masse de la population. Il n'est que d'avoir vu des gens, par ailleurs, fort éminents, dans les sphères du pouvoir, et le degré de servilité, de courtisanerie des gens qui ont par ailleurs brillé par l'indépendance de leur esprit, se trouve pour voir qu'il y avait là quelque chose de très puissant qui s'est en effet érodé. Et alors, dans les nouvelles générations, c'est clair. Cette espèce de réflexe d'obéissance n'existe plus. Est-ce que pour autant l'intériorisation profonde du pouvoir est véritablement entamée? Je n'en suis pas sûr. Il y a y a-t-il véritablement dépolitisation en profondeur de nos sociétés? Je ne le crois pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle emprunte de tout autre canon, dont nous ne sommes pas très avertis. Et je dirais, moi, plutôt, qu'il y a, à la fois au plan conscient, un manifeste recul, vous avez tout à fait raison, dans la description, elle est flagrante, de ce sentiment d'être en rapport immédiat avec un pouvoir qui fait partie de vous, d'une certaine manière. Non. Ça n'existe plus, ou en tendance, ça fait face ou ça se marginalise. Mais en profondeur, j'ai le sentiment de vivre dans des sociétés qui ont une espèce de nostalgie d'un pouvoir, et je parle d'individus, y compris dans les très jeunes générations, dont ils n'ont pas l'idée, qui ne peuvent pas se figurer vraiment, pour lequel ils ne sauraient dresser un portrait, mais qui est là présent. Parce que je crois que l'inscription psychique du fait du pouvoir est d'une profondeur qui va au-delà de ce rapport que la religion, en effet, séculairement, a mis en forme. C'est la prière, l'imploration, le sentiment de devoir, de tout devoir à quelque chose qui est au-dessus de vous, tout ça a disparu du cadre organisateur des consciences claires. Mais en profondeur, est-ce vrai? Je ne le crois pas. Et je crois que c'est que qui plus est, dans la conjoncture troublée où nous sommes, cette inscription psychique profonde du fait du pouvoir peut nous réserver de très mauvaises surprises. Mmh. Sous une forme que nous ne pouvons mal, ou pas du tout, anticiper. Mais il est là.